Bienvenue sur Foxeo. Ayant démarré mon business de zéro en 2018, je suis convaincue qu'on peut bien vivre de nos métiers en trouvant nos clients en direct et en développant surtout nos compétences commerciales. Moi, c'est Muriel et ma mission, c'est de vous aider en tant que femme freelance à vous développer et à vous vendre avec confiance. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je parlerai de stratégie, de développement commercial, de marketing de contenu, d'expérience client et de mindset. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Merci de votre écoute. Avant de rentrer dans l'épisode du jour, je t'invite à rejoindre mon programme Immersion. C'est un programme phare, complètement en ligne, qui va t'aider à créer un modèle d'affaires qui soit rentable et sur mesure, tout en te réconciliant avec la vente. Donc, j'ai vraiment bâti ce programme pour que tu puisses mettre en place des fondations solides et t'aider à trouver et attirer des clients à ta manière, en fonction de ton propre fonctionnement énergétique, avec simplicité et plaisir. Simplicité parce que vraiment, j'ai plutôt une approche de la vente qui est à la fois éthique et minimaliste. Donc je suis pas là pour te surcharger de choses à faire, au contraire, je suis là pour t'aider à simplifier, à y voir clair dans ta stratégie et dans ta direction. Et je te prodigue mes conseils en vente, donc moi je suis un pur produit du marketing et de la vente B2B, mais aussi en infusant énormément de conseils liés au human design. Donc ça va t'aider à faire une approche qui te ressemble sans t'enfermer dans une méthodologie toute faite. Je t'invite à cliquer sur le lien en descriptif de l'épisode pour retrouver toutes les informations détaillées sur le programme Immersion. Et maintenant, place à notre sujet du jour. Hello à toutes, bienvenue sur le podcast Foxeo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aude et Natacha, les deux fondatrices de la société Aura Lima et aussi mes formatrices pour la formation Human Design, comme vous savez que j'avais choisi de travailler avec Aura Lima. Donc, je suis hyper contente de les recevoir aujourd'hui. Elles vont nous partager leur expérience de projecteur et nous montrer qu'on peut tout à fait être projecteur et entrepreneur, puisque je trouvais ça intéressant d'avoir leur expérience, étant donné que j'ai pas mal de clientes qui sont projecteurs et qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur type énergétique. Donc, quoi de mieux que de donner la parole à deux projecteurs. Donc, bienvenue Aude et Natacha et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi, Muriel.
Je vous laisse vous présenter aussi, au passage.
Avec plaisir. Du coup, de mon côté, c'est Natacha. Je suis projecteur 5-2. Avec une autorité splénique pour ceux à qui ça parle. Et du coup, je suis la cofondatrice avec Aude de la société Aura Lima, comme tu l'as dit. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est sortis de terre et on est vraiment hyper contente, en tout cas de la tournure que notre entreprise a pris, parce qu'aujourd'hui, on se sent pleinement aligné avec le fait d'enseigner le design humain, d'enseigner aussi les stratégies digitales en fonction du design humain. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui a résonné si fort que c'était une évidence. Et d'autant plus que avec Aude, on est meilleure amie depuis plus de 15 ans maintenant. On ne sait plus exactement, mais plus de 15 ans, ça c'est sûr. Bientôt 20, j'ai même envie de dire. On a toujours su qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et surtout, on est originaire de Suisse. Mais voilà, on est toutes les deux passionnées de voyage. On est toujours en mouvement. Et peut-être, Aude, je te laisse te présenter à présent.
Oui. Merci pour cette invitation. Donc moi, je m'appelle Aude, je suis projecteur 5-1 autoprojeté, ce qui est un peu plus rare.
Oui.
Et pour ceux qui connaissent aussi le fameux jargon design humain, c'est vrai que Natacha, tu as déjà bien expliqué ce qu'on faisait. Nous, on aime aussi tout ce qui est stratégie, on aime aussi proposer cet outil parce que ça a révolutionné nos vies. Il y a vraiment eu un avant, il y a eu un après avec le design humain et c'est ça qu'on voulait transmettre. Et surtout, on s'est rendu compte qu'avec cette unicité, avec le fait de pouvoir faire des petits ajustements qui font toute la différence, on arrive à aller plus loin. Donc, c'est vraiment ce qu'on a envie de proposer aujourd'hui.
Super. Et j'en suis convaincue, puisque pour avoir été à l'intérieur des formations et y être encore, c'est que du plaisir. Et moi aussi, ça a beaucoup changé sur mon activité d'abord et à tel point que j'ai été conquise et que j'ai eu envie de le proposer aussi à mes clientes. Et donc, c'est vraiment un outil qui peut être aussi pratique et pas que juste on reçoit de l'information. Il y a plein d'infos, c'est cool, je me connais, mais je sais pas quoi en faire derrière. On peut vraiment l'utiliser de manière concrète et c'est ça, en tout cas, moi, que j'aimais beaucoup dans le design humain. J'ai pas mal de clientes qui sont projecteurs. Donc, il y en a certaines qui se comportent encore comme des générateurs, qui sont très conditionnés et qui ont du mal à se reconnaître et qui ont besoin de l'accepter, d'accepter leur type énergétique, mais qui sentent qu'il y a des fois on tire sur la corde, des fois on est fatigué, il y a des petits signaux comme ça, mais elles font quand même. Et d'autres qui, on leur a fait sentir en peut-être plus jeune que elle faisait pas assez ou que elle devrait avoir plus d'énergie ou des fois elles sont radicalement t'es un peu feignante, des étiquettes un petit peu négatives et donc ça fait du bien de savoir finalement et de comprendre qu'elles sont projecteurs. Mais elles se posent la question si je me lance à mon compte, est-ce que je suis faite pour être entrepreneur si je suis un type non énergétique? J'aime pas dire non énergétique d'ailleurs parce qu'on a l'impression qu'on leur enlève plein de choses. Est-ce que je peux quand même développer une entreprise puisqu'on sait que il y a plein de choses à faire quand on est entrepreneur et encore plus solopreneur où on a plein de casquettes. Donc j'avais envie d'avoir votre expérience aussi quand vous avez découvert que vous étiez projecteur et ce que ça a fait aussi pour vous dans votre entreprise.
Je crois que déjà on a la preuve qu'on peut être entrepreneur et réussir, première chose. Et c'est vrai que le design humain, pour moi, c'est un point essentiel et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'est qu'à aucun moment, on doit enfermer quelqu'un dans une case ou mettre des étiquettes. Et dès le moment où on a l'impression qu'on a une étiquette ou qu'on reçoit des informations qui nous conditionnent, c'est justement l'inverse du design humain. Donc ça, c'est important vraiment de pouvoir expérimenter et de pouvoir aussi s'approprier cet outil. Et c'est vrai que lorsque j'ai découvert le design humain, ça a changé ma vie dans le sens où j'avais ces moments où parfois, je travaillais avant, j'étais dans des bureaux. Je regardais autour de moi et je me disais, mais j'ai pas l'énergie, je suis pas comme les autres, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et j'ai tout simplement compris à ce moment-là que c'était pas que j'avais pas l'énergie, c'est tout simplement que j'utilisais mon énergie d'une autre façon. Et finalement, c'est ça. Le type non énergétique, il faut le voir comme des vagues. Comme tu le dis, on n'est pas léthargique sur un canapé, sinon on n'arriverait à rien. Mais c'est réussir à finalement identifier ces vagues d'énergie et de savoir les utiliser à bon escient. Donc, toutes les deux, Natacha, tu nous donneras aussi ton point de vue, mais c'est vrai que quand on ressent cette envie de créer, cette envie de se mettre en route, on va pouvoir effectuer beaucoup, beaucoup de travail en peu de temps. Mais par contre, ça va être important de pouvoir se reposer et se recharger les batteries, sinon on va être à bout. Ça, c'est la différence.
Et par rapport, alors si on prend une journée type de salarié pour comparer, alors moi je suis MG, pour bien identifier, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est projecteur. Par exemple, moi je me souviens que je pouvais avoir le coup de barre, mais d'après-manger, le coup de barre de midi, t'as aussi des petits coups de barre, même si t'es un type énergétique. Donc comment ça se manifeste? Est-ce que ça dure plus longtemps pour un projecteur, par exemple, pour une journée? Est-ce que c'est plus intense, plus... Comment on les reconnaît? Comment on peut reconnaître justement ces baisses d'énergie?
Alors, pour un projecteur, c'est vrai qu'on dit que l'énergie est fluctuante. Donc, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des vagues. Comment reconnaître quand on a besoin de repos? Je dirais qu'il y a plusieurs, entre guillemets, symptômes, même si on ne parle pas de médecine ici, mais il y a plusieurs signes, en tout cas, qui peuvent nous montrer qu'on a vraiment besoin de repos. C'est que, de un, on est plus efficace dans ce qu'on fait, on procrastine. Il y a beaucoup aussi parfois de mental, de mentalisation. Où on n'est pas, en fait, on ne se sent pas dans le flow. Ça, c'est vraiment, je trouve, des signes avant-coureurs qu'il faut qu'on se repose, même qu'on change d'air quelques minutes, qu'on aille s'aérer l'esprit, parce qu'on sait parfois, notamment dans un job salarié, qu'on n'a pas forcément la possibilité de partir et puis d'aller se reposer, hein, bien entendu, mais juste de se lever et d'aller prendre l'air quelques minutes, d'aller boire un café, peu importe, ça peut déjà changer l'énergie, de se mettre en mouvement. C'est vrai que l'être humain a besoin de mouvement et puis souvent dans des emplois de bureau, on reste assis beaucoup d'heures dans la journée et c'est vrai que nous, on a besoin de renouveler notre énergie assez régulièrement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important et pour les entrepreneurs aussi, parce que le problème, entre guillemets, c'est que quand on est entrepreneur, en général, on est passionné par ce qu'on fait. Et là, c'est important de ne pas oublier de se reposer et de prendre du recul. Et vraiment, encore une fois, d'identifier un peu ces signes qui nous disent en fait qu'on a besoin de changer d'air, de renouveler notre énergie.
Mmh. C'est plus fort que le simple petit coup de pompe.
Ouais, c'est vraiment. Je pense que ça dépend chez beaucoup de personnes. Ça peut se manifester de différentes manières. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le percevoir, en tout cas, que ce soit chez nous ou chez nos clientes qu'on accompagne. C'est qu'il y a vraiment un besoin de faire le vide un moment et puis de revenir en pleine forme, en fait.
Moi, je le sens au niveau physique aussi. Enfin, c'est vraiment le physique qui me donne envie de me coucher. C'est pas juste dans la réflexion. C'est vraiment de dire, oulala, j'ai de la peine à le faire. Et finalement, c'est aussi d'accepter qu'on peut peut-être faire beaucoup plus de travail en peu de temps. Et que c'est OK. Et ça, c'était quelque chose que j'avais de la peine à... Je me disais, mais finalement, j'ai fini. Je m'ennuie. Et c'est OK. Peut-être qu'on a plus de capacité sur le moment.
Oui, ça, c'est aussi la faute à notre culture. Enfin, je sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on a aussi beaucoup de présentéisme. En fait, tu dois arriver tôt, tu dois partir tard, tu dois montrer que tu es tout le temps là, même si tu brasses du vent.
C'est ça.
Du coup, c'est contradictoire avec ce fait, au contraire, de dire non, mais moi, j'ai fini plutôt de réfléchir en mode tâche et projet et qu'est-ce qu'on a réellement fait plutôt qu'en temps. Oui, en temps, en fait, finalement.
C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai un petit conseil qui peut changer toute la donne pour les projecteurs qui travaillent de longues heures assis. Ce qui peut faire toute la différence, et ça, je l'expérimente depuis quelques temps, c'est de travailler de façon un peu plus allongée, que ce soit dans un canapé ou même si vous aimez vous mettre dans votre lit. C'est vraiment quelque chose qui est très agréable, je trouve, parce que en même temps, on est bien cosy dans un endroit qu'on aime beaucoup. Et en même temps, bah, du coup, on est un petit peu dans cette énergie de création. En tout cas, chez moi, ça fonctionne assez bien de ne pas non plus rester assise à une table avec une chaise. Ça peut faire du bien aussi de changer de posture, tout simplement, pour travailler.
D'ailleurs, je travaille essentiellement sur mon canapé et dans un fauteuil. Mais c'est là où je suis la plus efficace.
Exactement. Voilà.
Bah, comme quoi, il y a aussi les bureaux assis debout. Changer d'endroit aussi. Moi, c'est vrai que je travaille aussi tout le temps de chez moi. J'aime bien un coup être au bureau, un coup dans le salon, par exemple. Aussi, changer d'espace aussi, ça peut régénérer un petit peu, redonner un petit coup de boost. Et alors, du coup, quand est-ce que vous avez appris que vous étiez projecteur? Est-ce que vous étiez déjà à votre compte, chacune de votre côté? Est-ce que ça a été au fondement même d'Oralima? Comment ça s'est passé pour vous, en tout cas, de découvrir, en plus, voilà, deux projecteurs? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a fait, ah oui, révélation? Ou, ah non, je l'accepte pas trop et je fonctionnais pas comme ça et j'ai pas trop envie d'être projecteur, quoi.
Non, bah, moi, ça a beaucoup expliqué de choses. À l'époque, j'étais déjà en entreprise. Donc, je faisais de la photographie de mariage. C'est vrai que j'avais ce côté saisonnière. Donc, la photographie de mariage, on travaille l'été et surtout, on travaille beaucoup le samedi et on est beaucoup plus libre la semaine. Et c'est vrai que dès le moment où j'ai pu mettre ça en place, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment quelque chose qui me convient bien, où j'ai ces rushs, en fait, à fond pendant un jour et ensuite, je suis tranquille à la maison. Et sans m'en rendre compte, finalement, j'avais déjà pris un plan de projecteur. Et c'est là aussi que j'ai commencé, entre guillemets, à avoir mes premiers clients, un peu de succès, où j'ai repris confiance en moi, où j'ai commencé aussi à être beaucoup mieux. Il faut savoir que quand j'étais en entreprise, je tombais malade tout le temps. Soit j'étais avec des rhumes, la grippe, tout le temps malade. Et c'est vraiment des grosses sinusites, des antibiotiques. C'était vraiment difficile. Et dès le moment où je me suis mis à mon compte et j'ai pu justement respecter cette énergie avec ces longs moments de pause en tant que saisonnière, entre guillemets. Et là, je me suis dit, mais je tombe plus malade. Et rien que ça, au niveau corporel, ça a énormément changé. Et toi, Natacha, à cette époque, tu étais encore salariée.
Oui. Oui, c'est vrai que j'étais aussi salariée et on a découvert le design, je dirais une année et demie avant que Oralima naisse finalement. Et c'est là qu'en fait, tout a changé. On s'est rendu compte de ça. Je me souviens très bien encore de ce moment où Aude m'appelle depuis sa voiture sur l'autoroute. Enfin, bien entendu, elle s'était arrêtée de façon sécuritaire, hein, je précise, pour m'appeler. Mais en gros, elle m'a dit « Ah, j'ai découvert un truc de fou, je suis projecteur, j'ai été regardée, toi aussi t'es projecteur et en plus, on est pratiquement similaires. » Et genre vraiment la chance pour qu'on soit similaire en termes de profil et de type énergétique, bah, je veux dire, ça nous a pas trop étonné parce qu'en fait, finalement, ça fait des années qu'on savait qu'on fonctionnait de la même façon, etc. Et en fait, on cherchait depuis des années en plus un projet ensemble pour créer une entreprise ensemble. Ça fait, waouh, ça fait depuis 2016 qu'on s'est dit qu'un jour, on créerait quelque chose ensemble. Et c'est, en fait, ça a été vraiment la révélation, ça a été le déclic. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, c'est ça qu'on va faire. Mais d'abord, il faut qu'on se forme, il faut qu'on l'intègre, etc. Qu'on intègre déjà cette information parce qu'on était vraiment genre surexcités. Et bah, du coup, ça s'est fait vraiment de façon très naturelle. L'outil, on l'a appris de façon très fluide et très facile. Et depuis, Oralima est née.
Super. C'est très chouette. Et par rapport justement à votre lancement de société, est-ce que tout de suite vous avez réussi à être entre guillemets, aligné, même si ça fluctue, hein, l'alignement. Un coup, on l'est. Il y a des phases où on l'est plus ou moins. Étant donné que vous aviez l'avantage d'avoir cette connaissance-là dès le départ, que nous, en tant qu'entrepreneurs, moi, c'est arrivé 5 ans et demi après, par exemple. Donc, est-ce que, du coup, ça a été un avantage dès le départ? Ou, malgré tout, vous avez quand même fait les erreurs de débutant, à savoir, on est ultra passionné par ce qu'on fait, on vit, on dort notre projet et on est à fond, on a du mal à s'arrêter. On pense tout le temps notre boîte, notre boîte, notre boîte.
J'ai envie de dire les deux. On a déjà démarré sur vraiment ce côté projecteur. Donc, on avait décidé déjà de créer notre offre. Et ensuite, on a vendu notre offre avant de l'avoir créée. Et ça, c'était quelque chose de très projecteur dans le sens où on avait pu tester le marché. Et on savait que si l'offre se vendait à ce moment-là, on pouvait de un, débloquer des modules au fur et à mesure en respectant notre énergie. Donc, on n'était pas dans le rush de la création. Et en même temps, on était payé pour pouvoir travailler sur cette formation. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré et ça s'est très, très bien passé. On a aussi commencé à automatiser de façon assez régulière et très rapidement aussi. C'était important pour nous. Et depuis le début, on s'est dit comment est-ce qu'on peut accueillir 500 personnes dans notre univers et qu'on puisse les gérer. Ça, c'était aussi très projecteur.
Très visionnaire aussi, très 5.
C'est vrai, très visionnaire. C'était vraiment notre idée de base. Et la troisième contrainte était qu'on puisse travailler de nulle part. Donc, le but, c'était juste qu'on puisse avoir notre ordinateur. Donc, pas de local, vraiment que ce soit simple. On a démarré sur ça. Ça a très bien fonctionné depuis le départ. Et je crois que toutes les deux, on s'est perdu dans notre passion l'année passée. On est parti en Thaïlande, pour la petite histoire, avec nos conjoints en digital nomade. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis corps et âme dans Ralima. On a été complètement passionnés par l'outil, on a vu le potentiel et ce que ça pouvait apporter chez les gens. Et c'est vrai qu'on a voulu transmettre, donner et on s'est perdu.
Ouais, c'est ça.
Oui, bon, ça arrive. Vous êtes humaine aussi.
Exactement.
Ouais, mais c'est intéressant de voir que dès le départ, voilà, là, on peut toute la stratégie est pensée à partir de soi pour se respecter et puis pour éviter de se cramer. Donc c'est hyper intéressant, ça vous a servi quand même sur toutes les fondations, elles ont déjà été posées, même si après on ajuste et on évolue dans la direction du projecteur, quoi. Donc c'est vraiment chouette et puis c'est puissant. Est-ce que vous avez un conseil pour les projecteurs qui ont du mal à se reconnaître? Ce qu'on dit, la stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Déjà, on pourrait en parler aussi, attendre l'invitation, parce que beaucoup de personnes se disent « bah je dois rien faire, du coup, j'attends ». Donc ça peut être intéressant de voir comment vous la voyez, vous la mettez en pratique dans Oralima, par exemple. Et puis de se dire « ok, il faut déjà se reconnaître soi-même, mais comment on fait pour se reconnaître soi-même » Parce que les projecteurs ont beaucoup de peine, finalement, à se reconnaître leurs dons, leurs valeurs, leur expertise, à avoir pleinement confiance en eux.
C'est une super question et c'est vrai que cette notion d'attendre l'invitation, c'est quelque chose, c'est une des plus grandes incompréhensions en fait dans la formation, surtout quand les projecteurs découvrent eux-mêmes leur stratégie, de vraiment attendre cette invitation, souvent c'est pas clair parce que, bah, comme tu l'as dit, ils ont l'impression qu'ils vont devoir rien faire et juste attendre penaud sur un canapé que les choses tombent du ciel, mais pas du tout. En fait, ce qui est vraiment important, comme tu l'as dit, c'est de s'auto-reconnaître d'abord dans ce qui peut apporter au monde. Et nous, si on avait attendu l'invitation pour créer Oralima, la faire naître, cette entreprise, bah, il n'y aurait pas Oralima aujourd'hui. C'est-à-dire que, premièrement, on s'est auto-reconnu, on s'est dit « Ok, là, ça vibre très fort en nous. On se sent pleinement en capacité de pouvoir apporter telle et telle chose au monde avec la formation de coach en design humain, par exemple. » Et ça, c'est vraiment, ça demande bien sûr de se défaire de ses conditionnements et puis de croire en soi et d'avoir de l'estime pour soi aussi. Parce que souvent, les personnes n'ont pas confiance en elles quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, ont peu d'estime d'elles-mêmes aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de travailler en amont parce qu'on estime que chaque être humain sur Terre a des dons, a des potentiels qu'il peut mettre au service de l'autre et qui peut en même temps servir l'autre tout en se servant soi-même, tout en s'offrant en fait un métier qui lui correspond. Et je pense que c'est vraiment important de travailler là-dessus en amont pour pouvoir ensuite reconnaître où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est talentueux. La petite erreur, par exemple, que moi j'ai fait quand je me suis lancée, quand j'avais vraiment l'idée d'entreprendre, en fait, parce que j'ai eu un premier projet avant Oralima de façon indépendante où j'étais toute seule, je me suis d'abord dit, OK, je suis formée là-dedans, j'ai des capacités dans les achats. J'étais acheteuse à l'époque et je vais faire ça de façon indépendante. C'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on peut pas aller ailleurs, tu vois. Il y a aussi cette notion-là qui est importante de se dire, bah, OK, je suis formée en tant qu'acheteuse, mais je peux aussi prendre mon courage à deux mains puis aller me former dans d'autres choses qui me passionnent sans forcément rechercher les mille et un diplômes, hein, parce qu'on le sait que le syndrome de l'imposteur peut être là aussi. Mais c'est important de vraiment travailler là-dessus. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça.
La subtilité, c'est quelque chose que je faisais facilement. En tant que projecteur, on voit les choses et on aime les partager. Et c'est vrai que souvent, quand on a vu un nouveau resto, un nouveau projet, on adore projeter ça et on dit « Ah, c'est génial, regarde ce nouveau resto, il était génial et vraiment on vibre ». Et finalement, c'est la même chose pour soi. C'est comme, en fait, se vendre comme on vendrait le meilleur resto et de pouvoir vraiment parler de ses passions, ce qui nous fait vibrer. Et ça provoque tout de suite les invitations parce qu'on est magnétique, en fait, quand on va partager ça. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour cette auto-reconnaissance. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'allume? Et après, les invitations, elles arrivent toutes seules.
Exactement. On peut prendre l'exemple du galeriste hein, que tu utilises très souvent. C'est comme un peintre en fait qui va utiliser une galerie pour exposer ses œuvres. C'est très projecteur comme stratégie de pouvoir recevoir des invitations de cette façon-là.
Complètement, oui, ça me parle bien. C'est vraiment montrer son art en fait, montrer son expertise, ce en quoi ce qu'on aime, ce en quoi on excelle, et ensuite ça arrive. J'ai aussi beaucoup de projecteurs qui disent oh là là, je donne des conseils et puis je suis face à un mur. Je suis balayée d'un revers de main, peut-être même parfois rejetée. Il y a même des fois des réactions, surtout avec l'entourage perso, de rejet, quoi. Vraiment, je t'ai pas sonné, en gros, je t'ai rien demandé. Et alors que le conseil est bon et pertinent, mais ça, c'est quelque chose aussi que vous avez ressenti en tant que projecteur ou
Ah,
ou
c'est pas. Typique.
Oui.
Typique. On dit qu'on vient mêler toujours notre grain de sel là où il faut pas. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de toujours attendre cette invitation. Donc, si nous, on voit les choses, hein, donc si on a une soirée, qu'il y a des amis qui se sont disputés, on arrive dans la pièce, on a déjà vu le schéma et on a déjà envie d'aller aider. La seule chose, c'est que ce n'est pas forcément notre rôle et ce n'est pas forcément bienvenu non plus. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que si on a un conseil à partager ou si on voit quelque chose, c'est de demander. Voilà, est-ce que je peux t'aider? J'aimerais te partager ça, j'ai vu, est-ce que tu serais d'accord de m'écouter? Et rien que ces phrases, en fait, c'est de la communication non violente. Désamorcer la conversation, ça va beaucoup aider. Donc, pas venir avec ses grands sabots et foncer dans le tas parce que ça ne fonctionne pas. Vous allez vous faire juste rejeter. Donc, toujours demander la permission avant de donner son conseil.
Je pense beaucoup à mon père quand j'entends ça, qui est projecteur, et lui, c'était tout le temps le gros sabot. Du coup, il y a eu pas mal de déconvenues. Il a mis du temps à intégrer ça. Il l'a fait naturellement avec l'âge, mais ouais, c'est assez drôle de voir effectivement les réactions. Les réactions en face peuvent être vraiment virulentes. Hein. C'est assez impressionnant. Ouais.
D'ailleurs, souvent on nous dit à partir de la trentaine quand on parle de ça, souvent on entend oui, maintenant je l'ai compris.
Ouais.
Parce qu'évidemment, on s'en est repris quelques-unes.
C'est ça. Excellent. J'avais aussi envie de vous poser une question par rapport à vos profils qui ont du 5. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais toutes les clientes que j'ai eues projecteurs, elles sont très souvent avec du 5-1, par exemple. Il y a beaucoup de 5-1. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des lignes, une prédisposition pour le type projecteur? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus ou pas du tout, que c'est vraiment un hasard? Je ne sais pas si vous aviez des chiffres là-dessus ou si c'est purement le hasard. Mais ça renforce ce côté leadership vision et guide, quoi.
Alors, on n'a pas des statistiques pour chaque type énergétique, mais plutôt de façon générale. On sait qu'il y a des profils qui sont plus répandus que d'autres. Le 5-1 est un profil relativement courant. Le 5-2 l'est un peu moins, par exemple. Et ça peut expliquer que certaines personnes, très souvent, tu retrouves cette typologie de profil dans tes clients. Et il se peut aussi que, tu vois, ces personnes-là recherchent, parce que si je me souviens bien, tu as une ligne 4 dans ton profil.
Moi, je suis 4-6, oui.
Voilà, exactement. Donc, si je me souviens bien, c'est vraiment important. Enfin, pour les personnes de ligne 5, c'est aussi important de se retrouver en termes de valeur, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils ont accroché avec ce que toi, tu vas transmettre, avec ce que tu vas leur apporter. Et tu vois, par exemple, Odémois, nos partenaires de vie, ils sont aussi 4-6. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un match qui pourrait, mais après, c'est mes suppositions. C'est pas du tout quelque chose d'officiel.
Oui.
Moi, j'apprécie en tout cas aller vers des 4-6 qui ont leur façon de penser, leur valeur, parce qu'on sait que c'est très droit, très carré, et puis ça passe ou ça casse, en fait. Donc,
D'accord, donc c'est peut-être juste des atomes crochus, peut-être que c'est une question d'attraction.
Aussi, on attire certains types de typologies de clients, c'est assez drôle.
Oui. Ouais, c'est marrant. Bah, je l'ai vu sur les lectures. Hein, commence à en avoir, l'accompagnement. Enfin, il commence à en avoir pas mal, et c'est intéressant de voir ce qui ressort le plus, quoi.
Exactement.
Au niveau du, un mot sur le profil, peut-être plus le 5 en particulier. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi avec toutes les personnes que vous accompagnez. Il y a un effet de waouh, je suis leader aussi. Waouh, et projecteur et leader, waouh, et le numéro 5. Et elles se disent des fois qu'elles se reconnaissent pas dans ce côté leadership. Est-ce que vous avez des pistes pour les aider justement à prendre conscience de ça, oser voir grand? Moi, par exemple, en tant que 4-6, quand je vous ai entendu dire d'emblée, on vise 500 personnes, je me dis, mais c'est complètement dingue. mes objectifs, ils étaient beaucoup plus petits. Moi, je suis plutôt faire step by step. Et je me dis, ça, c'est le 5 dans toute sa splendeur.
Mais je crois qu'on a une mauvaise vision du leader. Ça m'est arrivé, donc moi, je suis projecteur 5-1 et mon seul canal, c'est le canal du alpha leader. Et je me suis dit, mais ça va pas. Je suis hyper timide, j'ai de la peine à mettre en avant. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec ce côté leadership. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément être devant une foule et être en concert comme Beyoncé, loin de là. C'est plutôt avoir une vision, oser partager son point de vue, avoir des idées, être là. Enfin, je sais qu'en tant que ligne 5, hein, peut-être les personnes qui nous écoutent, elles vont beaucoup se reconnaître, mais en général, dans l'enfance, au travail, on est des personnes qui sont énormément sollicitées. Déjà, dans la famille, on est toujours un peu les problem solvers, donc on vient toujours aider dans ce sens-là. En fait, on voit les schémas, c'est juste que c'est comme si on avait les réponses. Pour nous, c'est facile, on aime universaliser les problèmes et on les partage. Donc, c'est pas... Pour moi, un leader, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux venir aider au mieux, solutionner, et c'est pas ce côté je prends mon pouvoir et je me mets en avant.
Devant une foule, oui, c'est pas forcément Tony Robbins, quoi.
Non, c'est
si
ça.
Je devais rester un petit peu.
Et lui, je crois qu'il est 6-4.
Il est 6-3.
Ah ouais, comme 6-3, quoi.
6-3, voilà.
Ouais.
Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Parce qu'il y a toujours un effet quand elles reçoivent ce numéro, enfin, qu'est-ce que c'est que le 5, de « Waouh, mais je suis pas ça, moi, hein. Je suis pas du tout ça. » Donc... Mais ça aide aussi à s'ouvrir et de voir effectivement qu'est-ce qu'on met derrière ce côté leadership. Et c'est pas effectivement que le côté star devant une foule ou le côté hyper, hyper vu. Ça peut être
non,
autre
et le,
chose, quoi.
Et le 5 est très tourné vers les autres. Il est là pour casser des schémas. D'ailleurs, toutes les deux, depuis enfant, on a un peu cette mission de casser les schémas familiaux, etc. On est vraiment là pour transmuter.
Est-ce que vous avez des erreurs qu'on pourrait éviter en tant que projecteur, entrepreneur, des choses, des petits conseils à donner à ceux qui nous écoutent?
Alors, j'en ai un. D'une part, c'est d'être passionné, encore une fois. Oui, c'est super, par son projet. Mais encore une fois, n'oubliez pas de respecter vos cycles d'énergie. Ça va vraiment être hyper important parce que prendre soin de votre énergie, ça va être un investissement. Et comme tu l'as expliqué, Aude, tout à l'heure, nous, c'est vrai que l'année passée, quand on a voyagé en Thaïlande, en fait, vu qu'on était tout le temps ensemble, qu'on a habité ensemble pendant quand même plusieurs mois, c'était pour nous l'occasion rêvée d'avancer à fond sur notre projet. Sauf qu'on a un peu oublié de profiter du voyage aussi. Et c'est dommage. On s'est vraiment rendu compte de ça après coup. Donc, pensez à votre passion. Oui, c'est bien, mais pensez à vous d'abord en premier. Ça va vraiment changer toute la donne, parce que c'est vrai que depuis qu'on s'est remis au centre, qu'on s'est remise aussi au niveau individuel, parce que c'est vrai que c'était tout le temps Aude et Natacha, mais jamais Aude ou Natacha. Et ça, c'est aussi important de se remettre au centre, de prendre notre individualité aussi en dehors de notre entreprise et de ne pas considérer notre entreprise comme notre bébé. Ça, c'est aussi un conseil, comme une entité à part qui est extérieure à nous.
Mmh.
Donc ça, c'est
aussi... à faire.
Non. Et le problème, c'est que le projecteur, il aime tellement aller au fond, il est tellement passionné. En fait, c'est comme si parfois, il rentre dans sa cave, il fait ses expériences et il est trop content. Et le problème, c'est qu'aussi, on a envie de le faire pour les autres, on a envie de transmettre. Et parfois, on peut noyer les gens. D'ailleurs, on le voit, hein, notre contenu, il est hyper riche. Et on n'a pas besoin de faire une thèse à chaque fois qu'on sort de notre grotte. Donc ça, c'est aussi important de savoir que Il y a des niveaux, donc voilà, on doit faire attention à ne pas noyer d'informations.
Par rapport aussi à une idée reçue que je reçois beaucoup, parce que moi, j'accompagne beaucoup sur la vente et la prospection. J'aborde la prospection d'une manière douce et éthique. Et donc, forcément, quand les projecteurs arrivent, ils me disent « Mais moi, du coup, je ne suis pas faite du tout pour prospecter. » Alors qu'il n'y a pas forcément que de la prospection dans le dur, à froid, en mode bourrin. Et souvent, on oriente sur la stratégie de contenu. Alors bon, pour moi, il y a plein d'autres choses. C'est pas que ou prospection ou contenu. Mais du coup, selon vous, quels sont les canaux, les approches pour trouver des clients, attirer des clients en tant que projecteur sans se perdre dans des méthodes pushy et bourrin, j'ai envie de dire?
Bah, je pense que le conseil principal, comme tu l'as dit, c'est de viser d'abord sur la création de contenu et d'être vraiment dans cette idée, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans cette idée d'être galeriste, de montrer son art et de montrer de quoi on est capable, que ce soit au travers d'un contenu qui donne des conseils, qui éduque, d'un contenu avec des points de vue personnels aussi, parce que c'est important de montrer ben, nos valeurs, de montrer comment on fonctionne, etc., mais aussi avec de la preuve sociale. Et si on débute puis qu'on n'a pas encore de preuve sociale, ben, on va peut-être faire des études de cas aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très puissant pour un projecteur. Ça va lui apporter ses premiers clients, ça va lui apporter ses premiers contrats et ça va lui permettre ensuite de grandir encore plus. Et on n'est pas en train de dire que la prospection, c'est un no way vraiment pour un projecteur, parce que si c'est bien fait, si c'est amené d'une façon qui lui correspond, ça peut être fait. Mais le message doit être travaillé d'une façon à ce que le projecteur, ben, ne sente pas, tu sais, c'est comme quand on va à un entretien d'embauche puis qu'on doit se vendre, puis expliquer nos qualités, etc. Ça, on n'aime pas trop, tu vois, de façon générale. Par contre, si on vient montrer notre book, si on vient montrer la façon dont on travaille, etc., là, c'est différent. Ça peut apporter quelque chose de plus fluide, en tout cas dans l'échange.
Oui, puis c'est, enfin, moi, je le vois plus même pour un projecteur. Ce que j'aime dire, c'est la prospection en deux temps. C'est, tu partages du contenu, tu transmets, il y a des réactions, des commentaires ou autres, et ensuite, tu vas engager. Mais il s'agit pas de vendre quoi que ce soit de but en blanc, quoi. C'est juste créer du lien, en fait, et converser et créer du lien. Et les choses se font naturellement. Et alors, ça, c'est bien, je trouve, pour les freelances, les indépendants ou les prestataires de services pas comme nous. Mais je pense l'esthéticienne que j'ai vue tout à l'heure, par exemple, qui a un commerce, qui n'a clairement pas le temps de passer sa vie sur Instagram, ou ouais, quelqu'un qui a un commerce et qui est commerçant, qui est projecteur. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut lui dire en se disant, bah lui, il va pas passer du temps à créer du contenu, c'est vraiment pas son job. Comment le rendre justement par magnétique pour trouver ses clients en tant que projecteur dans ce schéma-là?
Bah, je pense que le bouche à oreille, ça peut très très bien fonctionner pour justement cette sorte de métier. Donc aussi peut-être, ça peut être intéressant de se mettre dans des communautés. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont spécialement que pour les esthéticiennes, pour les coiffeurs, mais vraiment de faire des rencontres et du réseautage et de parler de ce qu'on fait. Ça, c'est une première chose aussi pour se faire connaître au niveau des collègues. Et au niveau des clients, c'est vraiment travailler sur le côté je te vois et j'ai vraiment ce conseil personnalisé pour toi. Je peux vraiment adapter mes services à qui tu es et forcément, ça va fonctionner. Et le bouche à oreille fonctionne très bien pour les projecteurs. C'est un conseil que je pourrais donner. Donc vraiment d'être dans cet accueil et dans cette finalement dans cette reconnaissance du client et de sa problématique.
Super intéressant. Bah, merci les filles. Je ne sais pas si vous voulez terminer sur un conseil ou sur quelque chose pour clôturer l'épisode. Moi, j'ai fait le tour de mes questions.
Alors, un dernier petit conseil que je pourrais donner de mon côté, c'est que demandez-vous toujours si vous pouvez faire les choses de façon plus facile. Comment je pourrais faire les choses encore plus simplement? Ça, c'est une question qui m'a beaucoup aidée tout au long du processus d'Oralima pour rendre les choses plus fluides, plus faciles au quotidien. Parce que souvent, on a tendance à faire une montagne, à faire les choses compliquées, alors que ça peut être simple. Et ça, en tant que projecteur, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'argent et ça nous fait gagner vraiment en énergie. Ça, ça n'a pas de prix. Donc ça, c'était mon dernier petit conseil du jour.
Et pour ma part, ce serait sur la reconnaissance. C'est vrai qu'on aime se faire reconnaître, donc parfois on fait beaucoup les choses pour les autres et on s'oublie. Donc se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de faire ça parce que ça me fait vibrer et on sait que ce qui nous fait vibrer nous amène les invitations, ou est-ce que je le fais pour les autres? Et ça, c'est aussi indispensable pour le projecteur.
Super. Merci beaucoup les filles.
Merci.
On peut vous retrouver sur Instagram principalement, c'est là où vous êtes le plus active, il me semble. Vous avez aussi un podcast qui s'appelle Impact, c'est ça ?
Exactement.
De mémoire. et puis, je mettrai les liens en bio, tout simplement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, votre site internet et vos formations.
Merci beaucoup, Muriel, en tout cas, pour cette invitation qu'on a adorée. Et on te souhaite en tout cas une belle suite. On se réjouit de te retrouver aussi prochainement dans la formation.
Oui, avec plaisir. Merci à vous deux.
Si vous aimez ce podcast, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Un grand merci pour votre soutien.